RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour, bienvenue dans Alors on dit quoi ? Aujourd'hui, nous nous intéressons aux écrivains et en particulier à ceux qui prennent la décision de publier. Ce n'est pas simple de trouver un éditeur et la déception reste immense lorsqu'ils reçoivent la énième lettre de refus d'une maison d'édition. Ce sont principalement les difficultés à se faire voir, lire et publier par les maisons d'édition, dites traditionnelles, qui les poussent d'ailleurs à déserter ce secteur. Parmi les alternatives, l'auto-édition où les écrivains prennent en charge de A à Z la publication et la promotion de leur ouvrage pour le faire découvrir au grand public. Mais cette voie a aussi des inconvénients puisque les moyens pour promouvoir et diffuser une œuvre sont à la charge de l'écrivain qui, lui, contrairement aux maisons d'édition, ne dispose que rarement des ressources nécessaires à son succès. Alors pourquoi le monde de l'édition est en perte de vitesse ? Quels sont les éléments à prendre en compte avant d'envisager une publication traditionnelle ou une auto-publication ? Comment maximiser ses chances de réussite ? Explications et conseils tout de suite dans Alors on dit quoi ?
Alors on dit quoi ? Avec Diarra Ndiaye.
Et pour en parler avec moi en plateau, Ashley Auguste, auteur de Little Nappy, quand maman m'apprend à m'occuper de mes cheveux. Bonjour Ashley.
Bonjour.
Également en plateau avec moi, Wafa Mamesh, journaliste et fondatrice de la maison d'édition Face Cachée. Bonjour Wafa.
Bonjour.
Et nous avons en ligne également David Noga, qui est écrivain et qui vient de publier Ascension écarlate aux éditions L'Harmattan.
Bonjour.
Bonjour à vous toi et merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous propose de démarrer de suite avec ce reportage. Après la phase de l'écriture d'un ouvrage, certains écrivains tentent l'aventure de la publication. Mais alors, comment publier et diffuser son livre en Guinée ? Illustration dans ce reportage de Alpha, notre correspondant sur place, qui a suivi un jeune écrivain guinéen très ambitieux. On écoute.
Tu n'as pas les moyens même d'avoir 50 exemplaires. Les difficultés là, comment trouver l'argent pour imprimer tes livres.
À l'image de Sadio Tunkara que vous venez d'entendre, de nombreux jeunes rencontrent de nombreuses difficultés pour passer du statut d'écrivain amateur à celui de professionnel. Âgé de 29 ans, Sadio a à son actif une œuvre dénommée « Les techniques de l'apprentissage » publiée en 2019. Il garde encore en mémoire le long chemin parcouru avant de voir son premier livre dans les bibliothèques.
Personnellement, ça a été un long parcours jusqu'à ce que moi-même, avec mon collègue, on puisse corriger mon livre. Le correcteur que la maison d'édition m'avait dit d'aller voir, je suis parti. Le prix qu'il m'a dit, c'était énorme et je ne pouvais pas le payer à ce prix pour qu'il puisse corriger mon œuvre. L'autre difficulté, c'est quand aussi tu signes le contrat, on te dit « Waouh, ton livre est OK ». Il faut payer. Pour avoir ton livre, il faut payer autant d'exemplaires et tu n'as pas les moyens même d'avoir 50 exemplaires.
En Guinée, les maisons d'édition se comptent sur le bout des doigts, une dizaine au total dans tout le pays. Mais comment faire pour publier son livre ? Sadio Tunkara nous explique son parcours.
C'est d'écrire d'abord un manuscrit et aller le déposer dans une maison d'édition, attendre que la maison d'édition examine ton œuvre. Une fois cela est fait, elle va te proposer un contrat d'édition. Si tu l'acceptes, tu le signes et puis on va te demander la somme à payer pour faire la commande de tes livres. Une fois cela est fait, tu as ton livre publié par une maison d'édition.
Mais ces techniques sont-elles accessibles à tous ? La réponse est sans doute non et notre écrivain en est conscient. C'est pourquoi, en collaboration avec un autre passionné d'écriture, il a créé une maison d'édition dénommée Innovédition. Sadio Tunkara y co-anime des séances de coaching sur les techniques d'écriture.
C'est deux fois dans l'année, en début d'année et en fin d'année. Et l'atelier d'écriture qui a commencé aujourd'hui s'inscrit dans le second volet de notre programme de formation. On a organisé 3 éditions. Chaque année, nous prenons 10 étudiants, 10 stagiaires, parce qu'un atelier d'écriture est différent des formations ou des conférences. Tu viens pour apprendre, pour produire quelque chose, faire une production littéraire.
Ces séances de coaching sont ouvertes à tous, mais à quelques conditions près. Jean-Baptiste Zébélamou est animateur principal des ateliers d'écriture.
D'abord, il faut avoir un projet d'écriture, un projet bien ficelé parce que tu as une histoire que tu veux raconter. Ou bien tu es passionné de l'écriture, tu veux mettre en quelque chose sur œuvre. Ou bien, parce que l'écriture c'est une thérapie, ou bien tu veux te soigner en écrivant l'histoire qui est enfouie en toi. Et ensuite, secondairement, il faut payer un quota pour participer à l'atelier d'écriture. Voilà, et pour cette année, on a fixé une modique somme de 500 000 francs guinéens, à peu près environ 50 euros, voilà, pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir bénéficier de notre coaching.
L'un des principaux objectifs de la résidence d'écriture est de toucher le maximum de jeunes. Pour réussir le pari, Jean-Baptiste Zébélamou se tourne vers les universités.
Nous sommes dans une université française qui nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse tenir les séances d'atelier d'écriture et tout le reste des autres formations. Pour les livres édités à Innova Édition, on les dépose à l'Université française de Guinée pour permettre aux étudiants de pouvoir avoir accès aux différents livres édités chez Innova Édition. Et aussi, nous sommes en partenariat avec l'Université Kofi Annan. Nous tenons aussi des ateliers d'écriture à l'université pour les étudiants qui sont facultatifs, mais qui est rémunéré par l'université elle-même. Et donc, c'est dans cette même perspective que l'Université française s'est lancée aussi dans la danse.
Depuis le début de cette initiative, une trentaine de jeunes Guinéens ont été initiés aux techniques d'écriture. C'est le cas de Kadiatou Younis Touré.
Au début, à l'enfance, l'écriture était une passion pour moi. J'avais vraiment envie d'écrire, exprimer tout ce que je ressentais dans l'écriture. Mais arrivé à un moment, je n'avais pas d'idée, je ne savais pas comment faire. Pour la première fois, j'ai suivi la formation, la résidence de l'écriture. Ça m'a permis d'avoir des notions des techniques d'écriture. Et là, j'ai commencé à écrire. Et là, je peux dire aujourd'hui, Dieu merci, moi, j'ai pas de difficulté. J'ai écrit mon roman. Mon roman était à la maison d'édition. C'est en phase de correction.
Désormais, rien ne sera plus comme avant pour Sadio Tunkara dans son aventure d'écrivain. Pour son second ouvrage qui sera bientôt publié, le chemin semble mieux balisé.
En termes de rédaction ou en termes de facilité, et cette fois-ci, j'ai pas rencontré de difficultés. Le livre, déjà, on travaille sur la couverture et la mise en forme. La rédaction est OK. Je l'ai fait avec mon collègue.
L'avenir de l'édition africaine est en marche. Sadio Tunkara illustre bien ce propos. Mais combien de jeunes écrivains attendent encore d'être publiés? Une réponse en suspense qui fait écho au succès grandissant de l'auto-édition. Une voie de publication tendance grâce à plusieurs phénomènes. La difficulté pour les auteurs de trouver une maison d'édition et le développement du livre numérique.
L'auto-édition est tendance, il a raison de le dire, Alpha, mais juste avant de revenir sur ce point, j'aimerais qu'on revienne sur les étapes de publication. Sadio, c'est un jeune écrivain et il a parlé de plusieurs étapes, dont la correction de son livre. Il a tenté de passer notamment par un professionnel, mais c'était trop cher. Ashley, vous, dites-nous, comment vous avez procédé et que pensez-vous de ce reportage?
Alors c'est super intéressant et je me retrouve un peu dans ce qu'il a pu dire sur son parcours pour créer ses propres livres. C'est compliqué en étant en auto-édition, ça c'est sûr. Bon, déjà il y a le fait de pouvoir proposer son manuscrit à des maisons d'édition classiques à compte d'éditeur. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de refus en fait. Et par rapport à ça, on se dit soit je reste sur le refus, soit j'essaie quand même de publier ce livre quoi qu'il arrive. Et là, on passe à l'auto-édition. Après, il y a un troisième type d'édition, mais je recommande
qu'on
pas.
Qu'on détaillera partir. Après, voilà. on va détailler.
Exactement. Donc après, il y a l'auto-édition. Donc je me suis reconnue dans ce qu'il a dit. Les étapes, c'est à nous de gérer de A à Z, de la fabrication jusqu'à la promotion. Donc on a un peu toutes les casquettes. Mais après, pour la correction, c'est vrai que je conseillerais, même vraiment recommanderais de travailler avec un professionnel, surtout pour la
correction. C'est ce que vous avez fait.
C'est ça. Un prestataire extérieur.
Wafa, autre point qui a été abordé, la signature du contrat avec une maison d'édition, une étape importante pour l'auteur, mais aussi pour la maison, n'est-ce pas? Vous savez, vous qui avez une maison d'édition.
En effet, c'est une étape très importante et c'est vrai que, en tout cas en France, en tout cas nous, on reçoit énormément de manuscrits, des maisons d'édition plus grandes encore plus.
Vous combien, par exemple? Vous en recevez?
Je pense que par mois, peut-être en recevoir 5 comme ça, ce qui est plutôt pas mal parce que vu qu'on s'occupe de tout le reste, prendre le temps de lire un manuscrit, c'est assez prenant. Et puis suivant aussi le type de livre, on a des approches un peu différentes. C'est-à-dire quand c'est de la fiction, évidemment, on attend un manuscrit terminé, etc. Quand c'est des essais, ça peut être différent. Si ce sont des sujets qui nous touchent, généralement, on préfère peut-être être contacté en amont du début de l'écriture pour angler un peu...
Vous allez accompagner l'écrivain dans la suite de son essai ?
Exactement, parce que finalement, si c'est des sujets qui nous touchent, que ce soit nous ou notre maison d'édition, peut-être qu'on les aurait pas chapitrés de la même manière, peut-être que nous, on aurait détaillé un point plus qu'un autre. Et ça, c'est important, et je dis souvent ça aux auteurs, que avant de venir, outre la fiction, je le répète, déposer un manuscrit, peut-être proposer une présentation de quelques pages et un exemple de chapitre. Parce que généralement, quand un auteur a mis des mois, voire des années à écrire son manuscrit, qu'on va arriver pour lui dire oui, mais non, mais ça, est-ce
qu'on
peut développer ?
Il n'apprécie pas forcément qu'on retouche son œuvre.
Exactement. Et puis, il a forcément peut-être pas le temps de le refaire.
Mmh. On reviendra en détail hein, dans la façon de procéder pour une maison d'édition. D'abord, j'aimerais recueillir l'avis de David. David, vous avez écrit plusieurs livres. Sadio, par exemple, a parlé d'ateliers d'écriture. Est-ce que vous avez déjà participé à cela ? Est-ce que c'est un incontournable pour les éditeurs ? Et qu'est-ce qu'on y apprend, finalement ?
Alors, des ateliers d'écriture, j'en ai mené essentiellement lorsque je fais des présentations de mon ouvrage dans des collèges, lycées. Est-ce que moi, à titre personnel, ça m'a servi dans mon parcours ? Pas vraiment. J'ai surtout appris en lisant, parce que le véritable entraînement, en tout cas pour un écrivain de thriller, c'est de lire. Donc je lis énormément. Je me suis pas mal inspiré de techniques d'auteurs américains que vous connaissez, hein. Michael Crichton, le père de Jurassic Park, ou encore John Grisham qui a écrit L'affaire Pélican. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'atelier d'écriture peut être quelque chose d'intéressant dans la mesure où ça permet à l'auteur de structurer sa pensée. C'est important de savoir que quand on écrit, il faut absolument un plan. Pourquoi ? Parce que le plan vous donne effectivement la dimension et la direction à suivre pour votre histoire. Et c'est tout aussi important de savoir que ce plan-là ne doit pas être suivi, j'ai envie de dire, comme une espèce de professeur qui vous dit de A à Z ce que vous devez faire, parce que vous devez quand même surprendre le lecteur. Donc c'est enrichissant, ça vous permet aussi de développer des techniques d'imagination. Parce que écrire par exemple un essai, donc qui est une espèce de mémoire, donc avec un plan détaillé, et écrire un roman, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Donc il y a pas mal de techniques qu'on peut apprendre aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important dans la mesure où ça permet d'ouvrir l'esprit et d'ouvrir aussi à d'autres choses intellectuellement.
J'avais, en faisant des recherches, vu qu'il y avait plutôt deux écoles au sujet du plan. Certains conseillaient de se structurer avec un plan et d'autres, en revanche, pour d'autres, c'était plutôt une erreur de poursuivre dans cette voie-là.
Alors, pour ce qui me concerne, pour tous mes livres, j'ai un plan. Mais je vais vous dire un petit secret. Mes plans font généralement entre 30 et 40 chapitres. Généralement, j'ai écrit les 40 chapitres et ensuite j'efface les 20 derniers. Pourquoi ? Parce que comme je fais du thriller, il faut que je me surprenne moi-même. Parce qu'en tant que lecteur, il faut que je sois surpris. Et si je me surprends, forcément le lecteur sera surpris. Donc à partir du 20e chapitre, je laisse totalement les personnages faire leur vie et me surprendre. Mais je reste quand même persuadé qu'il faut un plan au départ pour structurer l'histoire et pour donner un sens justement et de l'épaisseur à chaque personnage.
Vous surprendre vous-même mais aussi les autres, on en vient à la question de la relecture. Est-ce que c'est effrayant, angoissant peut-être d'attendre le retour des gens ? Il l'a un peu évoqué dans le reportage, Sadio.
Alors, ça peut être tout à fait effrayant. Moi, vu ma personnalité, ça n'a jamais été un frein pour moi. Par contre, ce qui est dur quand on écrit, c'est effectivement la relecture. Moi, je lis parfois et relis mon roman jusqu'à plus soif, entre 4 et 5 fois. Et je reviens aussi sur ce que disaient les collègues en plateau tout à l'heure. C'est vrai qu'il est important, pour l'avoir connu au début de ma carrière, d'avoir des professionnels de l'édition qui vous suivent, qui corrigent parfaitement votre ouvrage et qui le mettent à disposition du public, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir quelqu'un qui lit votre livre et qui découvre des fautes, qu'elles soient volontaires ou non. Donc c'est important de bien s'entourer, mm-hmm. et ensuite effectivement de se battre pour que le bouquin voit le jour.
Oui, Wafa, vous vouliez intervenir ?
Oui, quand on parle de relecture, surtout pour un auteur qui n'est pas affilié à une maison d'édition, je pense qu'il y a deux formes déjà de relecture. Ce qu'on appelle une relecture de fond, donc que ça soit, peu importe la forme de l'ouvrage, qui soit relu par un pair, par un autre professionnel, par exemple.
J'ai vu qu'il y avait des Wattpad, ce sont finalement des procédés qui consistent à faire lire son manuscrit à des inconnus. Pas forcément les proches, mais des inconnus.
C'est ça, exactement. Pour avoir donc un retour sur, si c'est un roman, sur la forme, sur le personnage, les détails, l'intrigue, etc. Et puis ensuite, donc normalement, ça, c'est évidemment le travail de l'éditeur. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens veulent être édités. Et puis ensuite, il y a la correction de forme, qui est la correction de coquilles, de conjugaison, de grammaire, etc. Et c'est vrai que si c'est celle-ci dont parlait cet auteur dans le reportage, ça coûte extrêmement cher. Pour être moi-même relectrice freelance, ça coûte très cher.
L'ordre de combien, dites-nous, enfin.
Allez, en moyenne, je dirais peut-être 3,50€, les 1000 signes caractères compris. Donc ça va très vite.
Ça va très vite pour un gros roman.
Exactement, parce qu'on prend vraiment le temps de lire. Des fois, on relit sans même, je dirais pas sans même comprendre, mais on relit limite les espaces, les grilles. Donc ça prend énormément de temps. Et généralement, malheureusement, beaucoup de maisons d'édition externalisent aussi ce métier qui se précarise également.
Et quand on est en auto-édition, c'est encore plus compliqué. On va justement parler de l'auto-édition. On a en ligne Jean-Paul Lafont, qui est gérant de Publishroom, une maison d'auto-édition qui accompagne les auteurs indépendants. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Alors, vous Publishroom, vous accompagnez les auteurs indépendants. Dans le détail, expliquez-nous vos missions d'accompagnement.
L'idée, c'est effectivement d'accompagner les auteurs, de leur amener du service. D'abord, des auteurs qui ont décidé d'avoir recours à l'auto-édition. Soit ils ont été refusés par l'édition traditionnelle, soit ils ont décidé tout simplement qu'ils assumeraient l'édition totale de leur livre. À cela, on doit apporter un certain nombre de services qui peut aller de la lecture, de la correction, la mise en page, la production de livres numérique et la production de livres papier, le référencement sur les grandes plateformes libraires, de librairies, le référencement auprès des bases de données libraires, et également un petit coup de pouce pour essayer d'être reconnu, un petit coup de pouce pour faire sa communication. Voilà, alors ça peut être l'un ou l'autre ou la totalité de ces services. J'ajoute qu'au départ, nous sommes imprimeurs de livres, fabricants de livres, un tout petit peu éditeurs par ailleurs, et que c'est effectivement la suite suite aux demandes diverses de nos clients qui nous faisaient fabriquer tout simplement des livres, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'un peu de services complémentaires.
Et justement, qu'est-ce qui explique le succès de l'auto-édition ?
Alors, d'abord, moi, pour être un vieux monsieur qui est dans ce monde-là depuis longtemps, j'ai un peu l'impression qu'on est moins effrayé à l'idée de publier. En gros, que beaucoup plus de gens publient aujourd'hui, ou en tout cas écrivent et osent montrer ce qu'ils ont écrit, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a 20 ou 30 ans de ça. Je fais un petit lien avec les possibilités techniques. En gros, aujourd'hui, il est assez simple de faire d'imprimer un livre. Il est simple de publier un livre numérique, assez simple d'imprimer un livre papier. C'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Donc, on va dire que les moyens techniques ont permis de développer tout ça. Pour le reste, je ne sais pas trop. Je constate que chaque année, je vois passer de plus en plus de propositions de manuscrits ou de gens qui veulent éditer. Je note également que je vois passer de plus en plus de jeunes personnes, de jeunes gens. Avant, c'était une activité de retraités. Je parle bien d'auto-édition. Aujourd'hui, je vois passer pas mal de jeunes gens.
Et ce qui explique également ce succès, n'est-ce pas cette façon de vouloir aussi contrôler, voir ce qui se passe du début à la fin de la création de son livre ?
Oui, alors il y a une petite forme de défiance à l'égard de la grande édition, qu'on a tous entendu, que c'était un monde fermé, qu'on n'avait aucune chance d'y pénétrer, c'est vrai ou pas, peu importe. Donc c'est petite forme de défiance, et par la suite l'idée de contrôler ce qu'on fait, d'autoproduire, je dirais d'apprendre et de voir comment ça se passe. C'est pas seulement le souhait de contrôler, c'est aussi le fait de voir comment chaque étape se déroule et pouvoir y assister.
Et écrire un livre, quel que soit le genre, un littéraire, ne nécessite pas simplement d'avoir une belle plume et une bonne histoire. D'après vous, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas surtout ?
Difficile à dire comment bien écrire, j'ai pas d'idée là-dessus. J'ai le sentiment qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Ne pas s'inspirer des modes, ne pas essayer de refaire, même si c'est difficile d'être aveuglé, enfin en tout cas de de ne pas tenir compte de ce qu'on a lu auparavant. Peut-être que l'originalité vient du fait qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, que le talent va avec.
Et quand on passe par la voie d'une maison d'auto-édition, quelles sont les erreurs à éviter ?
C'est difficile. Normalement, on est supposé être là pour éviter tous les écueils. Enfin, en tout cas, que l'auteur évite tous les écueils. La première des choses, on essaye de, en tout cas en ce qui nous concerne, on essaye de tenir le discours de l'humilité et de la modestie. C'est très très difficile de vendre beaucoup de livres aujourd'hui. Effectivement, on a vu quelques personnes qui pensaient que en publier un livre, le succès était, il y avait de bonnes chances pour que le succès soit au bout. Si c'est pour créer la frustration, il vaut mieux ne pas le faire et le dire très 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 vite. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaye de décrire aussi le marché de l'édition aujourd'hui, ce qu'on peut raisonnablement entendre ou pas, ce qu'il est possible de faire ou pas. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un succès, mais il faut se dire quand même, quand on a recours à l'édition, et peut-être même à l'édition traditionnelle, malheureusement aujourd'hui, le succès est assez rarement au rendez-vous, les bonheurs sont ailleurs.
Il y a très peu d'élus, et je vois Wafa qui confirme. Peut-être une petite réaction d'Ashley. Ashley est en plateau avec nous, Jean-Paul Lafont, et elle a justement utilisé vos services de Publish Room pour publier son livre.
C'est ça. Donc j'ai publié à ce jour deux livres avec Publish Room, et je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit, en fait.
La gratuité et l'autonomie proposées par ce type de service ne vous a pas forcément dérangé. Au contraire. Vous avez suivi du début à la fin.
Le processus de
publication.
C'est ça. On suit les processus et on a un mot à dire aussi sur chaque étape. Donc, on a une visibilité et on a notre mot à dire. Donc, ça, c'est tout ce qu'il faut, en fait.
Merci beaucoup, Jean-Paul Lafont, d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup à vous.
Agla.
Et petite pause musicale, on écoute tout de suite Fali Ipupa, Allô Téléphone. C'était Fali Ipupa à le téléphone.
Alors on dit quoi ?
À l'écoute de Radio France Internationale, Alors on dit quoi ? Qui revient aujourd'hui sur la publication d'un ouvrage lorsqu'on est un jeune écrivain. J'en parle aux côtés d'Ashley Auguste, Wafa Mamesh et David Noga. Ashley, l'arrivée du livre numérique au début du 21e siècle a considérablement changé la donne de la publication. Vous êtes passé par l'auto-édition, on vient un petit peu de l'aborder. Mais si on entrait dans le vif de ces étapes, si on décryptait vraiment ces étapes, on commence par la mise en ligne du manuscrit, c'est bien ça?
Alors, avant la... Enfin, ça dépend si on va sur...
Si on est déjà prêt, le livre, il est là, il est prêt, on est satisfait, on l'a relu 150 fois, comme l'a dit tout à l'heure David. Comment on s'y prépare? Comment on choisit le site?
Alors, le site, c'est vrai que ça, c'est compliqué, ça dépend en auto-édition toujours.
Toujours en auto-édition.
Pour le coup, on n'a pas vraiment le choix. En auto-édition, on n'a pas de réseau de distribution, on n'a pas de gros réseau. Et ça, c'est justement les grandes maisons d'édition classiques qui en ont. Donc, on peut se contenter de ce qui est ouvert et ce qui est permis pour l'auto-édition. Donc, Amazon, je dirais, Amazon KDP, où là, on peut publier d'autres livres à notre guise. On a aussi d'autres sites avec lesquels on peut essayer de collaborer. Mais pour ce qui est des grands distributeurs, comme par exemple la Fnac ou Cultura, il y a un réseau spécifique, en fait. Donc, c'est pas simple.
Vous êtes passé par quel réseau?
Là, bah, avec Publishroom, justement, qui ont ce réseau-là. Moi, je peux travailler avec eux et ils s'occupent de mettre les livres en ligne sur, justement, Cultura et la Fnac, etc. Par contre, les livres ne seront pas physiquement dans les librairies. Ça, faut le savoir, dans les magasins.
Uniquement en ligne.
C'est uniquement en ligne, exactement. Amazon, ben, pareil. Donc, voilà.
Et l'étape de fixer le prix, elle intervient quand?
Ça, c'est à vous de fixer le prix une fois que le livre il est donc fait.
J'ai vu que le prix moyen d'un livre numérique en France était inférieur à 8 euros. Combien il coûte le vôtre?
Numérique, 5,99 €.
D'accord.
Le mien. Après, en papier, c'est autre chose.
Ça coûte combien?
15 € le mien.
15 €. D'accord. Et on arrive à la promotion et la diffusion de votre livre.
C'est ça. Alors, en auto-édition, c'est le nerf de la guerre.
Ouais.
Voilà, parce qu'on est un auteur inconnu, entre guillemets, surtout quand on vient de commencer. Donc, l'idée, c'est de se faire connaître.
J'ai vu 5 à 10 000 références présentes sur les plateformes d'auto-édition ou sur la livrée en ligne. C'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
Comment on fait pour se distinguer?
Justement, bah, les réseaux sociaux. C'est la plus-value qu'on a aujourd'hui en tant qu'auteur en auto-édition. C'est de se faire connaître via les réseaux sociaux qui nous aident énormément. En tout cas, moi qui
Mais qui prend beaucoup de temps. C'est chronophage.
C'est chronophage.
Sur Instagram, préparer les publications.
C'est là que j'ai dit qu'on avait vraiment toutes les casquettes. Je suis community manager à temps plein. Donc, les médias, il faut les contacter, il faut démarcher. Après, c'est dans l'univers. Ça dépend de l'univers dans lequel on a écrit, mais démarcher dans ce domaine-là précis et en parler tous les jours. Vraiment une visibilité.
Est-ce qu'il y a des limites à l'auto-édition?
Oui. Bah, pour la distribution. je pense que c'est la limite.
On va peut-être prendre l'avis de David, qui lui est aussi, avant d'être publié à l'Harmattan, il est passé
par l'auto-édition.
Par l'auto-édition. Okay. David, vous, quel souvenir vous gardez de cette expérience?
Alors, un souvenir à la fois joyeux et un peu mitigé, parce que je n'oublierai jamais le jour où j'ai reçu le mail m'annonçant la publication de mon premier roman. J'ai ressenti une joie comme rarement. Après, effectivement, quelques déconvenues, parce que les livres n'étaient pas publiés avec avec le sérieux que je voulais, en tout cas dans cette première maison d'édition. Et puis aussi en termes de promotion, notamment, j'étais assez déçu, parce que un livre, c'est 9 mois de recherche, 3 mois d'écriture, donc il y avait une certaine frustration. Et une deuxième partie, donc chez Publibook, où j'ai passé 11 années, où là j'ai quand même trouvé des interlocuteurs qui étaient vraiment amoureux du livre, amoureux des beaux mots, va-t-on dire, et qui m'ont accompagné dans la mesure du possible, de la santé de cette maison, parce qu'on oublie souvent que l'économie d'une maison d'édition est très fragile, et qui m'ont pas mal accompagné, et puis jusqu'à ce que nous arrivions au bout du chemin, où vraiment j'avais besoin de plus de promotion, et où j'avais aussi besoin de passer un cap littéraire, et c'est de cette manière donc que j'ai intégré par la suite l'Harmattan.
Et comment vous avez contacté l'Harmattan? Qu'est-ce qui vous a poussé à finalement vous dire que il est temps aujourd'hui d'être publié par une maison dite traditionnelle?
Alors là, je rebondis sur ce que disait Jean-Paul Lafont. Il y a un mot qui est très important en écriture, c'est le mot humilité. C'est-à-dire savoir que il y a toujours des gens qui sont meilleurs que vous. Quand je lis Michael Crichton, John Grisham, ou même Jean-Claude Cayette, qui est un auteur inconnu, mais qui publie, il faut toujours se dire qu'il y a meilleur que soi. Donc à partir de là, regardez le panel des maisons d'édition, être curieux de ce que font les autres, et puis des gens, on s'aperçoit que c'est pas toutes les maisons d'édition qui sont capables de publier ce que je fais, vu que la plupart de mes livres parlent à un moment donné de l'Afrique, Certaines maisons d'édition n'éditent pas ce genre de livres, mm-hmm. pour des raisons de ligne éditoriale. Donc, il faut bien regarder ce qui se fait sur le site internet. Ensuite, il ne faut pas tout attendre d'une maison d'édition non plus. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce sont des économies très fragiles. Les maisons d'édition fonctionnent parfois sur un modèle qui n'est pas du tout adapté à notre époque, c'est-à-dire un modèle digital. Donc, il faut aussi savoir apporter sa patte, savoir se renseigner, parfois passer des coups de fil. Quand on a la chance, par exemple, d'avoir une attachée de presse, comme je l'ai chez l'Armatan, c'est de définir ensemble un plan marketing et d'avoir la liberté, effectivement, de choisir les interlocuteurs. Mais encore, faut-il aller regarder les biographies des journalistes, suivre leurs émissions, comprendre ce qu'ils font et ensuite proposer ça à la maison d'édition. Et puis, un point qui est très, très important, qui différencie aussi la maison d'édition du classique et l'ancienne, et là j'arrive à votre question, c'est qu'il faut savoir que les très grandes maisons d'édition reçoivent en moyenne à peu près 6000 livres par an pour 100 publiés. Donc en fait, déjà d'y entrer, c'est quasiment une loterie. Donc pour résumer, c'est un, être curieux, deux, découvrir une ligne éditoriale qui correspond à ce que vous faites, mm-hmm. et trois, ne pas hésiter à retravailler. Mon premier livre chez l'Armatan, je l'ai réécrit quatre fois.
Beaucoup,
et voilà, et quand il a été satisfaisant, ben, j'ai intégré l'Armatan.
Voilà. D'ailleurs, juste une petite question, je voulais rebondir sur autre chose, mais comment on sait qu'un texte est terminé, qu'il faut cesser de le retoucher et envisager sa publication? À quel moment on se dit stop, c'est terminé? Parce qu'en relisant, moi, en écrivant et en relisant mes textes, je change chaque seconde, alors j'imagine même pas pour un écrivain.
Alors, moi, en fait, je fonctionne toujours en trois étapes. La première fois, j'écris pour moi, c'est-à-dire j'écris un texte qui me fait plaisir. C'est important. La deuxième fois, j'écris pour le lecteur, c'est-à-dire que je corrige les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes de syntaxe. Je me dis, est-ce que c'est agréable à lire pour lui? La troisième fois, je me mets cette fois-ci en mode maison d'édition, en me demandant, est-ce que le ton que j'emploie aujourd'hui va être accepté par telle ou telle maison d'édition? Est-ce que je me renie, par exemple, si j'édulcore ce que je dis? Donc, c'est les trois fois où j'ai écrit. Et quand j'ai écrit ces trois fois-là, je passe le texte à une professionnelle que je salue, parce que elle y est pour beaucoup. Si aujourd'hui, on me sélectionne parfois pour des prix littéraires, c'est Sandrine Marcelli qui fait un travail remarquable, mmh. un travail de fond, comme le disait Wafa, un travail sur la forme aussi. Et à ce moment-là, je reprends le texte pour faire une quatrième correction et je l'envoie à l'Armatan.
Mmh. Donc, beaucoup d'étapes, Wafa, justement. Vous êtes à nos côtés, vous avez fondé une maison d'édition Face Cachée. On parle d'envoi depuis tout à l'heure, on envoie, mais cet envoi, qu'est-ce qu'on envoie finalement? On envoie le manuscrit en entier ou juste un synopsis?
Alors, généralement, on envoie les manuscrits en entier parce que les gens ont terminé. Et justement, tout à l'heure, on parlait de les gens maintenant arrivent, ont envie d'écrire, l'envoyer. Donc, ils attendent quand même d'avoir terminé quelque chose pour l'envoyer. Et à partir de ce moment-là, donc, ils attendent une relecture. On disait qu'il y avait une centaine de livres publiés par an, à peu près. On dit souvent qu'il y a 5% des livres publiés dans une maison d'édition qui viennent de manuscrits qu'on a envoyés. Parce que généralement, les maisons d'édition travaillent aussi par commande, mm-hmm. c'est-à-dire qu'elles veulent aussi un peu, on va dire, surfer sur le buzz, en fait,
oui.
se dire, tiens, tel sujet, tel auteur n'a pas sorti de livre, on va anticiper et aller demander de nous faire un livre. Et on veut, suivant notre ligne éditoriale, comme je disais tout à l'heure, tel ou tel livre anglais, comme ça.
Mais quand on envoie ce courrier, c'est accompagné d'une lettre, une petite présentation, comme une lettre de motivation, on va dire, une lettre d'accompagnement. Qu'est-ce qu'elle doit contenir, cette lettre?
Franchement, rien de particulier. Maintenant, ça se passe surtout par mail. Donc, les gens
Mais
parlent.
Mais même ce mail, comment on
Les gens parlent avec le cœur. Voilà, bonjour, voilà, j'ai écrit sur tel ou tel thème, j'aimerais beaucoup que vous le publiez, j'aime beaucoup votre maison d'édition. Donc déjà, il y a une accroche, on n'envoie pas n'importe quel livre à n'importe quelle maison d'édition, la ligne éditoriale est importante.
Il faut d'abord l'étudier alors avant de choisir sa maison d'édition.
C'est ça, voilà, on va pas m'envoyer des livres sur le jardinage alors que je fais des essais sociopolitiques par exemple.
Oui, et Wafa, est-ce que vous lisez tous les livres, et l'ensemble du livre surtout, ou alors vous survolez les 30 premières pages et ça vous suffit pour vous faire une idée?
Alors déjà, je fonctionne aussi par rapport à... Généralement, j'essaye de... on va dire lire des gens que je connais peut-être un peu, mm-hmm. parce que moi je suis vraiment une toute petite maison d'édition, je publie un ou deux livres par an. Mm-hmm. Tout à l'heure on parlait de réseaux, d'auteurs qui débutent de rien. Mm-hmm. Nous on essaye peut-être d'avoir quelqu'un qui a une petite communauté, le but mm-hmm. c'est pas d'en avoir beaucoup, parce que le travail se fait conjointement pendant plus d'une année, on va se donner de la force pour pousser ce livre
vous
au maximum.
Misez sur ce... Vous pariez finalement.
Exactement, mm-hmm. c'est des paris qu'on fait, et si eux n'y arrivent pas, nous on n'y arrive pas, parce que c'est notre argent et notre temps qu'on met sur la table.
Et combien ça coûte de publier un livre ?
En moyenne, les livres, on ne parle pas de grands livres illustrés, etc. Mm-hmm. Je dirais dans les 5000 euros.
Mais en passant par toutes les étapes, la correction,
l'illustration, l'imprimerie.
L'imprimant,
exactement.
D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez principalement, puisque vous dites que vous êtes une petite maison d'édition ?
Alors les difficultés, c'était d'abord les difficultés de distribution. Nous, on a signé avec un distributeur en début d'année, mm-hmm. mais pendant 4 ans, on était auto-distribué et auto-édité, parce que justement, on n'imprimait pas assez de livres par an. Et puis surtout, on s'y connaissait pas beaucoup au début. Donc on allait, avec nos livres, faire le tour des librairies d'Île-de-France, contacter des gens en province et leur dire « Voilà, mon livre, est-ce que vous pouvez me faire du dépôt-vente ?» C'est chronophage mm-hmm. de façon incroyable. Et puis tout à l'heure, on parlait des sites internet, mm-hmm. de la FNAC, etc. Mm-hmm. Par exemple, c'est des choses que les gens ne savent pas beaucoup, mais il y a quelques réseaux de franchise de la FNAC. Mm-hmm. Donc c'est encore un travail de recherche. Il faut aller sur le terrain, aller voir le commercial, lui demander si on peut en poser. Finalement, on fait tout. Et le centre de notre métier, qui est l'édition, en fait, peut-être ne peut être que de 10%. On est obligé de tout faire, les réseaux sociaux, les événements. Nous, on mise beaucoup sur les événements et sur les réseaux sociaux, parce que généralement, les maisons d'édition traditionnelles n'ont pas le temps ou font l'impasse sur ça. Et pour la jeune génération, c'est très important.
C'est très difficile. Et on a justement la jeune génération en ligne. On a Christelle Bailly qui nous appelle. Elle est auteure et youtubeuse. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Alors vous, Christelle, vous avez créé une chaîne YouTube originale où vous donnez des conseils, vous partagez votre expérience d'écrivain, tout simplement, dans cette chaîne. Décrivez-nous un petit peu plus en détail ce que vous proposez.
Alors, en fait, c'est une chaîne plutôt généraliste, enfin, concernant l'écriture, mais je parle du coup de conseils d'écriture, de publication et de promotion, tout en faisant des vidéos un peu humoristiques pour les auteurs. Voilà.
Et on a par exemple des thèmes abordés comme le conseil d'écriture que vous venez de citer, la promotion, la page blanche quand on n'arrive pas à écrire, l'inspiration, la réécriture et surtout la publication. Qu'est-ce qu'il faut retenir de fondamental à ce sujet lorsqu'on rêve d'être publié selon vous, Christelle ?
Déjà, moi, ma chaîne est plus concernant l'auto-édition. Mm-hmm. Je parle un peu d'édition, alors je ne sais pas si vous voulez que je réponde pour l'auto-édition.
Oui, plutôt pour l'auto-édition, allons-y, comme on a en plateau et en ligne beaucoup de gens qui ont été auto-publiés.
Je ne sais pas, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir devenir un peu auto-entrepreneur. Enfin, il va falloir faire plein de choses différentes et il ne va pas falloir hésiter à franchir ses limites et du coup s'intéresser à plein de choses différentes. C'est ça qu'il faut garder en tête.
Et est-ce que globalement vous avez un conseil à donner à tous ces auteurs qui rêvent d'être publiés ?
Il faut continuer d'envoyer, même si on reçoit un refus, 10 refus. Stephen King en a reçu des centaines et il a continué d'écrire. Donc il faut continuer à envoyer. Peut-être que la maison d'édition faisait une sortie similaire peu de temps auparavant, peut-être que c'était pas la bonne ligne éditoriale. Il y a plein de raisons qui font qu'un livre peut être refusé par une maison d'édition. Alors, faut continuer à envoyer.
Pas lâcher prise. Merci infiniment, Christelle.
Merci à vous.
On a également en ligne Irène Ekouta, qui elle est auteure également de Mes Confessions Anonymes. Bonjour Irène.
Bonjour.
Alors vous, Irène, vous avez publié déjà un livre, mais vous avez aussi participé à un concours Prix Jeune Écrivain Africain de Langue Française. Quel a été le parcours de l'ouvrage que vous avez proposé durant ce concours ?
J'ai simplement proposé un manuscrit qui a été sélectionné parmi tant d'autres et qui est arrivé en demi-finale de la compétition. Mm-hmm. Ce qui a fait en sorte que mes proches me disent de ne pas laisser le manuscrit comme ça. C'est-à-dire que si tu arrives en demi-finale d'une compétition comme celle-là, ça veut dire que tu as du potentiel, tu ne peux pas t'arrêter en si bon chemin.
Et à quoi est-ce que vous vous attendiez en participant à ce concours, Irène ?
Je voulais juste participer pour le plaisir, hein, j'avoue. Je me disais, voilà, tu as l'âge que tu as, c'est la dernière chance de compétir. Donc, propose quelque chose qui sorte un peu de ce que tu as l'habitude de faire. Et voilà, c'est arrivé. J'étais agréablement surprise. Et donc voilà.
Le livre a été sélectionné jusqu'en demi-finale. Et finalement, est-ce que vous l'avez édité ?
Oui, il a été édité.
Comment ?
Par une maison. Enfin, disons que je ne voulais pas le faire. Mm-hmm. Et j'ai été très encouragée par des proches qui m'ont dit, voilà, tu dois aller jusqu'au bout. Et je leur ai dit, vous vous en occupez. Donc, ils ont cherché un éditeur sur Internet. L'éditeur a été séduit et puis le livre a été édité. Malheureusement, c'est la pré-édition qui a été compliquée à gérer parce que, voilà, la distribution, j'avais pas pensé à la distribution, j'avais pas pensé promotion. Donc, le livre, le livre a été un peu, disons qu'il n'a pas été très bien promu au Cameroun parce que l'éditeur était basé en France.
D'accord. Donc, des problèmes au niveau de l'édition et de la publication du livre, finalement.
Exactement.
Bon, en tout cas, on vous souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir participé à cette émission. Peut-être un petit mot qu'on va recueillir auprès de David. David, que vous inspirent les livres qui sont proposés dans les concours? Est-ce que vous, ça vous dirait éventuellement de participer à un concours pour être publié?
Pourquoi pas? Évidemment, il ne faut se refuser aucune porte. Et puis, le but de l'art et de l'écriture, c'est aussi l'émulation collective. Je reste persuadé que plus on est face à des interlocuteurs qui vous poussent dans vos retranchements et qui vous poussent à sortir de votre zone de confort, plus vous êtes capable de produire le meilleur de vous-même. Donc oui, tout à fait, c'est quelque chose.
Et vous, Ashley, les concours, est-ce que c'est quelque chose qui vous...
Je serais ouverte au concours, complètement.
Oui, ouais. Oui, vous n'avez pas encore tenté l'aventure?
Non, pas encore.
Et vous suivez de près, vous, Wafa, les concours, les gagnants de ces concours, ou même les participants, peut-être qu'il y a des pépites dedans?
Malheureusement non, parce qu'on manque totalement de moyens, mais on avait justement l'ambition de créer aussi un concours, parce que justement tous les manuscrits qu'on reçoit, et malheureusement certains, on n'a même pas le temps d'y jeter un coup d'œil, mais on se dit que proposer un concours où le manuscrit déjà serait plus réduit et sur un thème plus anglais, nous permettrait aussi de pouvoir le lire, et on voulait aussi offrir une chance à tous ceux qu'on ne peut malheureusement pas publier, peut-être de les publier dans une revue, peut-être sur un site internet, peut-être de faire...
Ah, vous faites des alternatives de temps en temps.
Quand un
ouvrage vous plaît vraiment,
voilà,
j'imagine.
C'est ça.
Et nous allons continuer de prendre en ligne nos auditeurs. Il s'agit d'une auditrice, Edwige, qui vit à Montréal. Elle est diplômée en génie civil. Elle est également auteure du livre Ava. Bonjour Edwige.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien et vous?
Oui.
Vous avez récemment publié un livre. Alors racontez-nous brièvement l'histoire de ce livre parce que la genèse est intéressante pour RFI. Et juste après, on en vient à son mode de publication.
Donc, Ava, c'est une histoire qui raconte un peu de moi. Puis en même temps, c'est une œuvre que je veux futuriste parce que l'histoire se passe en 2030. Puis qui explique comment l'Afrique s'est développée. Puis ça parle d'une Afrique prospère, épanouie. Suite à un grand rapatriement des Africains de la diaspora vers leur terre natale.
Et c'est le podcast qui a été diffusé ici, Afrofuturiste, qui vous a inspiré.
Exactement,
c'est bien
cela.
Comme
une révélation.
Eh bien, j'invite nos auditeurs à courir écouter ces podcasts qui ont été diffusés sur RFI et qui sont disponibles, bien sûr, sur notre site internet. Alors, dites-nous, Edwige, vous, comment finalement vous avez publié alors cet ouvrage?
Mais la publication, pour moi, n'était pas vraiment un problème parce que je suis en contact avec un éditeur que je connais. Alors lui me disait tout simplement, fini d'écrire ton livre, écris-le au plus vite, ne t'inquiète pas pour l'aspect publication. Donc je l'ai publié sur Amazon, donc c'est plus une sorte d'auto-édition. Mais ça a vraiment bien été, je n'ai pas eu à m'inquiéter de gérer un stock ou les problèmes que les gens ont d'habitude avec les maisons d'édition, je ne l'ai pas eu.
D'accord, bah c'est très bien, hein, comme quoi il y a parfois des exceptions. Et dites-nous, Edwige, une dernière question, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture notamment?
D'autres projets d'écriture, certainement. J'ai déjà le titre du prochain livre.
Vous avez débuté écrit. L'écriture?
J'ai commencé un tout petit peu, mais il me faut un peu plus de temps.
D'accord.
L'année prochaine.
Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, Edwige. Et partagez-nous, bien entendu, cet ouvrage, hein, on veut savoir. La suite
oui.
de cette aventure. Merci infiniment, Edwige.
Merci à vous.
Alors, j'aimerais à présent qu'on parle d'une autre thématique qu'on n'a pas encore abordée, l'argent. Tout à l'heure, vous nous avez dit un petit peu le coût, Wafa, que vous investissez dans ces auteurs. Mais combien on gagne finalement? Ashley, vous avez publié, vous, un livre. Mm-hmm. Combien vous avez gagné?
Alors, honnêtement, déjà, notre édition, le coût, il reste... Il y a un coût, certes, mais il est moindre par rapport à d'autres types d'éditions, mais il reste moindre quand même. Voilà. Après, pour le retour, bon, je suis assez mitigée. On n'en vit pas, en tout cas. On n'en vit pas, ça, c'est sûr.
Donc, vous travaillez, vous, à côté?
Je travaille à côté, oui, bien sûr. D'accord. J'ai en formation, oui, je travaille parce que.
On n'en vit pas, donc c'est vraiment.
Parce que si je gère tout, je gère la maison d'impression, il faut compter le coût d'impression, il faut compter les promotions, des fois payantes ou non. Enfin, tout ça, ça rentre dans le prix au final.
Livre qui coûte 5,99€, vous m'aviez dit?
Le livre papier coûte 15 euros.
D'accord.
En gros, on rentre forcément tout le temps dans nos frais. Et après, ça dépend s'il se vend ou pas. Mais pour ça, ça demande de la visibilité. Donc, c'est tout un process, en fait.
Mais j'ai vu quand même qu'un auteur touche 5% à 10% du prix des ouvrages vendus contre 70% pour les plumes auto-publiées. Donc, vous gagnez un peu plus. Maison d'édition, c'est-à-dire
moyenne, c'est entre 8 et 12% de vos auteurs.
D'accord. Donc, vos auteurs, ils gagnent à peu près combien, vous le savez?
Ça dépend vraiment du prix du livre, ça dépend de combien ça a été vendu.
Il n'y a pas de moyenne globale, finalement.
Non, on ne peut pas dire.
Et vous, David, est-ce que vous vivez des revenus de ces ouvrages que vous avez publiés?
Franchement, non. Non, moi, je vis plutôt de mon métier de manager commercial. C'est ce que disait Wafa, c'est que tout dépend de l'exposition qu'a eu un livre à un moment donné. Et puis, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que lorsque vous touchez des royalties sur un livre, en fait, déjà 50% de ce que vous gagnez va à l'État. Mmh. Et il y a également un cycle comptable, donc cela dépend des maisons d'édition, qui fait que vous pouvez sortir un livre le 1er janvier 2020, mais en fait vous ne toucherez vos royalties que 12 à 15 mois plus tard.
Donc en plus ça prend du temps.
En vie, c'est compliqué.
C'est vrai que la reddition des comptes se fait aussi souvent en fin d'année.
Donc
oui,
vous comptez,
ça peut prendre un an, voire plus.
Un an avant de toucher tout cet argent. Une dernière question parce que l'heure tourne très vite et on arrive presque à la fin de cette émission. Il y a aussi le crowdfunding pour publier un livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous faites un petit tour de table pour nous dire ce que vous en pensez.
Moi, je l'ai fait pour le premier livre. J'ai dû faire un crowdfunding donc sur Ulule, la plateforme. J'avais atteint mon objectif.
Donc qui était de
50 préventes. Avant de lancer le livre pour pouvoir lancer justement l'impression. Et ça a bien marché. Et ça a donné un petit coup de visibilité aussi. Donc super.
Donc un excellent moyen de publier et de se faire connaître.
Oui, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Notamment, ça donne aussi une nouvelle vie aux magazines. Parce que généralement, vendre des revues, des magazines, en tout cas les imprimer, les fabriquer, c'est beaucoup plus cher qu'un livre traditionnel. Donc on a beaucoup de revues comme ça qui existent comme ça. Nous, on y a pensé, mais on se l'est interdit. Justement pour savoir à quel moment on reste viable. On veut pouvoir imprimer de nouveaux livres avec de l'argent qu'on possède déjà. Parce que si on commence à être toujours dans ce système de pré-vente et d'argent qui va peut-être rentrer pour imprimer autre chose, c'est le jour où ça ne fonctionne plus,
tout s'écroule.
Exactement. Comme disait David tout à l'heure, l'économie est très fragile.
David, le crowdfunding, votre avis?
J'en ai fait. Maintenant, j'ai aucun frein pour tout ce qui permet la promotion littéraire. Donc, plutôt un avis positif.
Plutôt un avis positif. Écoutez, merci infiniment pour toutes ces informations. Merci à vous, Ashley. Ashley, peut-être nous dire où on peut retrouver votre livre?
Oui, sur Amazon, du coup.
Sur Amazon. Alors, rendez-vous sur Amazon et on mettra peut-être un lien pour nos auditeurs qui veulent découvrir votre ouvrage. En tout cas, merci infiniment pour cette participation. Wafa, comment vous contacter si on veut vous envoyer un livre?
Il y a toutes nos adresses sur notre site internet.
Qu'on mettra également sur le site.
Face-cachée.fr.
Merci beaucoup en tout cas pour cette participation. Et merci à vous enfin, David, d'avoir participé à cette émission consacrée aux jeunes écrivains qui veulent éventuellement être publiés un jour. Et votre dernier ouvrage, L'Ascension écarlate, lui, est disponible
partout. Vous pouvez le commander en librairie, à Fnac, Amazon.
Partout. Alors merci beaucoup, merci à vous, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission et c'est ainsi que s'achève Alors on dit quoi. Rendez-vous samedi prochain, rendez-vous également sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp au 33 647 740 742. Merci à ma team Beverly, Mariam, Daba et Guillaume. Umnon Ragongol, à bientôt.